Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Timothée Rouvière.
Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans votre émission Vivante Église sur Radio Présence. Comme tous les jours, on est ensemble pendant une heure pour développer un sujet d'actualité. Et aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'éducation sexuelle et affective chez les enfants et les adolescents. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Cécile Tavernier, adjointe diocésaine en pastorale pour l'enseignement catholique. Bonjour à vous.
Bonjour.
François Reichert, directeur diocésain du Tarn-et-Garonne. Bonjour à vous.
Bonjour.
Et Sébastien Deveau, responsable Teenstar dans le département de la Haute-Garonne. Bonjour à vous.
Bonjour.
Merci beaucoup déjà à tous les trois d'avoir accepté mon invitation. Pour bien poser le sujet, j'ai déjà une première question. En termes de définition, quelle définition et quelle différence on fait entre l'éducation affective et l'éducation sexuelle? Sébastien Deveau, peut-être.
Oui, pas de problème. Donc, d'abord, je commencerai par définir affectivité et sexualité avant de parler d'éducation, donc pour que les auditeurs comprennent. Donc, l'affectivité est plutôt ce qui est dans l'ordre du sensible, du ressenti, de la perception. Donc, ça va plutôt être les émotions. La sexualité, ça va être la mise en œuvre et la traduction en relation interpersonnelle de ce qu'on ressent, de ses émotions, et voilà, qu'est-ce qu'on en fait, comment concrètement, de manière interpersonnelle, elle se manifeste, et on la manifeste.
Et qu'est-ce qu'on entend alors par éducation ?
Donc l'éducation, c'est amener les jeunes à prendre conscience d'abord de leur affectivité, donc d'abord des émotions, donc de les identifier, d'arriver à les caractériser, et ensuite dans la sexualité, c'est de leur faire prendre conscience qu'il y a différents de niveaux, différents degrés de mise en œuvre de la sexualité, différents niveaux d'implication de la personne, de son corps, et toujours dans l'idée de les amener à ce que l'affectivité, la sexualité et leur corps et leur être en entier soient unifiés.
Cécile Tavernier, vous au quotidien, vous côtoyez des jeunes. Quel bilan vous en faites de leur connaissance de la sexualité chez ces adolescents, chez ces enfants que vous côtoyez? C'est une vaste question, hein?
Alors, c'est une vaste question. J'aurais juste voulu aussi compléter sur la différence entre éducation affective et éducation sexuelle, sur le fait, en fait, que pour nous, en enseignement catholique, c'est vraiment très lié. En fait, en enseignement catholique, on parle de EARS, éducation affective, relationnelle et sexuelle. Parce qu'en effet, tout ce qui concerne, comme le disait Sébastien, tout ce qui concerne la gestion de ses émotions, l'estime de soi aussi, nous apprend à mieux nous connaître pour mieux connaître l'autre et donc entrer en relation avec l'autre. Et puis ensuite, construire des relations qui vont jusqu'à cette union charnelle dans la sexualité, mais avec toutes les étapes, des amitiés, des belles amitiés, et tout ça dans une optique d'éducation intégrale de la personne. Donc voilà, c'est vraiment tout le champ qu'on essaye de parcourir pour leur faire découvrir cette grande et belle cohérence entre la découverte de notre personne et cette découverte, effectivement, cette éducation affective. Le but est là, en fait. Voilà, donc ce que les jeunes connaissent et l'état des lieux, c'est compliqué. C'est un vaste sujet. Ce qu'on peut voir, c'est que tout petit, on peut déjà les éduquer à cette estime de soi, des belles relations les uns avec les autres. On déploie ça, on en reparlera tout à l'heure.
Une chose importante aussi, c'est qu'on parle là de dons, que ce soit la relation, que ce soit la sexualité, ou que ce soit l'expression de notre affect. En fait, on donne à l'autre, et l'autre se donne à nous, donc il faut être en capacité de recevoir. Et ce don se traduit par l'amour qui se vit avec les personnes qui nous entourent, et il faut y être prêt. Et je pense que malheureusement, actuellement, on ne prend pas suffisamment le temps de préparer la relation à cette dimension-là.
Pourquoi c'est important de lier éducation affective et éducation sexuelle? Sébastien Deveau.
Alors, en effet, les deux sont étroitement liés et c'est surtout progressif. Donc, comme je disais tout à l'heure, en fait, l'affectivité, ça va être centré sur soi-même. L'affectivité, c'est qu'est-ce qui vient sur lequel on n'a pas vraiment de prise, c'est-à-dire c'est ses émotions. Qu'est-ce qui monte? Qu'est-ce qu'on ressent? Et après, la sexualité, c'est comment, en respectant l'autre, en se respectant soi-même, en respectant la relation avec l'autre, puisqu'on veut construire avec l'autre une relation, comment on va manifester cette relation. Et donc, dans la sexualité, tout simplement parce que ben, même voilà, entre hommes et femmes, même voilà, en se tenant la main, est-ce qu'on s'embrasse, est-ce que... voilà, ça va ensemble, c'est qu'est-ce qu'on veut manifester à l'autre dans la relation.
Est-ce que c'est compliqué de faire un état des lieux sur l'éducation sexuelle et affective chez les enfants, parce que c'est un sujet dont ils n'ont pas forcément envie de parler? Cécile Tavernier, vous en pensez quoi?
Bon, je dirais que ce qui est compliqué, c'est qu'en fait, en fonction des lieux où on parle, quand on parle d'éducation sexuelle entre nous, ici, sur ce plateau, on est assez en phase. Mmh. Mais si on va regarder sur un site pas chrétien, ce qu'est l'éducation sexuelle, il y a toute une approche d'éducation très hygiéniste, avec une approche aussi d'éducation au plaisir, et comme un but en soi. Et il me semble que peut-être qu'il y a aussi des incompréhensions par rapport à ça. Enfin, on pourrait faire ces distinctions-là, mais pour nous, il y a cette grande cohérence qui fait que le plaisir est un fruit de tout ce qui a été construit avant dans la relation.
Je voulais réagir à la réaction précédente sur la pudeur, l'éducation sexuelle et affective et le lien. Pour moi, c'est aussi la pudeur. C'est la pudeur qui fait le lien. Qu'est-ce qui fait que je m'ouvre à l'autre, que j'accepte de m'ouvrir à certains et pas à d'autres? Qu'est-ce qui fait que d'autres peuvent rentrer dans mon champ d'intimité et pas certains? Voyez. Et cette question-là, elle est pour moi primordiale dans le respect de la personne humaine et dans la relation. Et on ne parle pas assez de pudeur et du respect de la pudeur.
Et pour compléter, je dirais que l'enjeu est de donner du sens à la relation. C'est en fait, c'est inscrire, j'allais dire, il y a beaucoup d'éducation affective et sexuelle qui sont tournées vers soi-même, vers la personne, comme disait très bien Cécile tout à l'heure, sur le plaisir, sur le ressenti, sur le côté hygiéniste, le côté génital, le côté technique, de comment est-ce qu'on fait. Et en fait, je dirais que l'enjeu aujourd'hui, il est surtout de donner du sens. Pourquoi est-ce qu'on a une relation quel sens on veut donner à cette relation?
J'ai une autre question qui me vient. Cette éducation sexuelle et affective, par qui elle est dispensée, elle doit être dispensée? Est-ce que c'est une découverte des enfants et des adolescents? Est-ce qu'il faut que ça soit encadré par des associations, par l'école, par les parents? Vous en pensez quoi, Cécile Tavernier?
Alors, en enseignement catholique, les parents sont les premiers éducateurs, notamment sur ces questions-là. Et l'école doit être le lieu qui prolonge la vision des parents, normalement. Il y a adéquation entre le projet des parents et le projet de l'école. Et le projet de l'école catholique, c'est écrit dessus, il est catholique. Donc, il est fondé sur une anthropologie chrétienne. Donc ça, c'est important d'avoir conscience de cette cohérence-là. Après, par qui est-il dispensé? Alors, il y a des éléments dans les programmes dont on pourrait parler, qui pour le coup concernent le fonctionnement du corps humain, qui fait aussi partie de l'éducation sexuelle, la reproduction, etc., toutes ces questions-là. Après, il y a des formations, effectivement des interventions qui peuvent être faites par des associations qui peuvent venir dans les écoles, par aussi on parlait tout à l'heure de l'éducation, de l'importance de la relation, et nous, en Haute-Garonne, sur les départements, dans le 82 aussi et le 09, on a toute une une formation qui s'appelle l'éducation à la relation et qui pose les bases justement de cette éducation affective avec la connaissance de soi, la maîtrise de ses passions, etc. Donc ça, c'est vraiment accompagné par les enseignants, surtout au premier degré pour l'instant, mais voilà, ça, c'est appelé à se développer par ailleurs. Et c'est sûr que voilà, il y a des personnes qui sont un petit peu habituées, il y a des associations comme Teen Star aussi qui proposent d'intervenir hein, dans les établissements, notamment dans les internats, et qui l'ont fait chez nous. Voilà, toutes ces possibilités, mais je ne veux pas monopoliser la parole.
Il y a aussi des intervenants sur certaines diocèses, mis à disposition par le diocèse, des pôles jeunes, où, vous voyez, qui interviennent au sein des établissements avec une progression pour suivre les élèves et débattre avec eux sur toutes ces questions-là, et en rappelant aussi l'importance de la personne et le côté sacré de la personne humaine.
Et Teen Star, donc, pour compléter un petit peu tout ce qui a été dit, et être dans la droite ligne vraiment de ce que tu as dit, Cécile, c'est clairement, pour nous, les premiers éducateurs à la vie affective et sexuelle restent et sont les parents. Nous en sommes convaincus. Et en fait, Teen Star, c'est un parcours donc, qui est proposé aux jeunes sur la durée, sur un an. On y reviendra peut-être un petit peu plus tard. Mais l'idée est d'ouvrir une porte à la discussion entre le jeune et ses parents. Et nous, notre plus grande victoire en fin d'année, quand le parcours se termine, c'est quand on a des feedbacks de parents qui nous disent « Vous avez ouvert un canal de communication, non seulement sur l'affectivité et la sexualité, mais sur plein d'autres sujets qu'on ne pensait pas possible, sur un certain nombre de sujets. » Et ça, c'est vraiment notre fer de lance. C'est ouvrir ce champ de éducation à l'affectivité et à la sexualité dans l'unité de la personne. Ça, c'est vraiment la clé. Et donc voilà, donc oui, je suis complètement dans cette idée-là que les parents restent les premiers éducateurs.
À tel point d'ailleurs que les associations de parents d'élèves qui sont fédérées au niveau départemental, régional, etc., interviennent beaucoup, organisent des conférences auprès des parents, des webinaires, etc., sur ces questions-là.
Justement, vous avez anticipé ma prochaine question. Est-ce que les parents, justement, sont correctement formés et informés?
Alors pour le coup, on essaye effectivement, François en parlait, on travaille en lien avec l'APEL, donc qui est l'association des parents d'élèves de l'enseignement libre. Et effectivement, donc on communique, ils ont édité une petite brochure avec des propositions d'ouvrages, de justement les parcours Teen Star y figurent aussi comme propositions pour leurs enfants. François parlait aussi de webinaires et de conférences, donc ça c'est un petit peu à la discrétion pour ce qui est des conférences, c'est un peu à la discrétion des établissements, même si c'est encouragé par l'appel départemental hein, qui a des propositions, enfin voilà, et toujours en lien avec nous, la direction diocésaine aussi, on se fait passer les personnes qui se font l'écho, ouais. Voilà, et qui partagent nos convictions aussi et la vision de cette éducation-là. Voilà, et puis on parlait d'un webinaire, effectivement, il y a eu tout un webinaire qui a été acheté, on va dire, pour un an et mis à disposition, qui est sur le site de l'appel départemental, enfin pour tous les adhérents de l'appel, sur la prévention de la pornographie précisément. Donc c'est un webinaire qui doit durer une bonne heure et demie. Voilà, donc il y a des outils et un travail en collaboration, voilà, pour essayer effectivement de les accompagner, parce qu'on a des questions, bien entendu, les questions remontent, oui.
La proposition existe en tout cas. Elle existe sous différents médias et sous différentes formes. Après, la difficulté, c'est la disponibilité des personnes. Et puis, vous avez des gens motivés par ces questions-là que vous revoyez souvent. Et vous avez d'autres personnes qui, malheureusement, ne sont pas disponibles pour se joindre à nous et pour creuser un peu ces questions-là.
Sébastien Deveau, au sein de Teen Star, est-ce que vous avez des parcours, des formations pour les parents?
Alors aujourd'hui, nous ne proposons pas de parcours pour les parents. Nous avons identifié qu'il y avait un besoin. Il y a beaucoup de parents qui nous en parlent, qui nous disent à la fin du parcours, mais en fait, nos enfants sont formés, ils en savent plus que nous maintenant, ce qui est tout à fait le cas la plupart du temps. Donc on a identifié. Donc peut-être qu'un jour on en proposera, mais c'est pas le cas pour le moment. Et Par contre, je sais qu'il existe d'autres propositions. Alors, ce n'est pas un parcours formant, mais pour ceux qui le souhaitent, alors c'est pour des un peu plus jeunes que la proposition Teen Star qui s'adresse à des 4e, 3e ou lycéens, mais qui est cyclo chaud et parcours XY, et qui, eux, sont vraiment une mise en relation entre l'enfant et le parent de même sexe sur une journée. Et voilà. Et donc, ça permet à la fois que l'enfant soit formé, mais aussi le parent. Voilà. Mmh. Donc, si ça peut répondre...
Peut-être par rapport à la question de la formation des parents, François faisait le constat que c'était parfois compliqué de les former parce qu'ils étaient occupés. Mmh. Et en fait, là où ils sont demandeurs de formation, c'est quand ils constatent en fait les dégâts qu'il peut y avoir, les souffrances de leur enfant ou l'enjeu, il est vraiment de leur faire prendre conscience de la réalité de ce que connaissent leurs enfants, de ce qu'ils entendent, de ce qui est véhiculé par la société et par rapport auquel ils ont eux du recul, mais recul que leurs enfants n'ont pas, enfin voilà, et qui sont immergés dans quelque chose qui les abîme, enfin voilà, dans un monde qui les abîme et qui leur donne une image de la sexualité, d'une sexualité, comme on disait, technique, violente, dénuée de sens, enfin voilà.
Désaffectisée. Mais j'ai perdu le fil, mais je voulais réagir à un propos que tu disais sur... les familles, de toute façon, ce qu'on essaie de faire, c'est de se placer dans la prévention. Et c'est ça qui est extrêmement difficile. Parce que le monde actuel évolue très très vite. Et les outils d'accès évoluent très vite pour les enfants. Et les choses ont relativement toujours existé. Le problème, c'est l'immédiateté qui est due à l'outil. Voilà. Avant, quand un jeune voulait obtenir de la pornographie, il fallait qu'il ait le courage d'aller acheter une revue. Il était connu par le buraliste, etc. C'était un peu compliqué. Maintenant, c'est accessible immédiatement.
En deux clics, c'est bon.
Voilà. Et ça, c'est une difficulté qui rend la réflexion et l'accompagnement beaucoup plus complexes.
Sébastien Deveau, justement, il y a un rapport qui est sorti il y a deux jours sur l'état de la pornographie en France. C'est une difficulté supplémentaire que vous avez?
Alors, ça fait partie intégrante, ça fait plusieurs années qu'on en a pleinement conscience à Teen Star, parce qu'on est vraiment, on a le retour des jeunes, et on crée ce canal de communication, dans les parcours qu'on a, on crée vraiment une confiance où, du coup, on a la vérité des jeunes, de ce qu'ils vivent, et on voit un gros décalage entre la perception des parents et ce que nous rapportent les jeunes. Donc je pense, et c'est sans accusation aucune envers les parents, mais il y a une grande naïveté des parents sur ce que vivent les jeunes pour deux raisons. D'abord parce que les jeunes sont généralement pas très fiers de ce qu'ils vivent et ensuite parce que c'est des sujets qui sont plutôt tabous, qu'on n'aborde pas facilement. Donc, et qui aboutissent à cette grande naïveté. Mais effectivement, il y a quelques chiffres qui sont sortis dans ce rapport et qu'on voit, nous, auxquels on est confrontés, nous, depuis plusieurs années maintenant à Teen Star, de ce que nous rapportent les jeunes. J'en cite quatre comme ça, très, très rapidement. Avant 11 ans, 11% des jeunes, 11% des garçons ont été exposés à de la pornographie. Avant 13 ans, 36%. Avant 15 ans, 70%. Avant 18 ans, 95%. Et ça, nous, on le voit dans les parcours. Et c'est dans tous les milieux. Hein. Moi, j'allais dire, avant de voir ce rapport qui est sorti cette semaine et qui est excellent, et que vraiment, j'invite les parents, pour prendre conscience du fléau et du vrai problème, à le lire. Il y a un petit condensé en 4 pages qui est également disponible. Mais voilà, nous, on a 9 jeunes sur 10 dans les parcours qui nous confient, regardez, plus ou moins souvent de la pornographie. Il y en a, c'est tous les jours. Il y en a, c'est une fois, plusieurs fois par mois. Mais c'est 9 sur 10. Donc il y a vraiment une méconnaissance de l'accès des enfants à la pornographie de la part de leurs parents. Et donc, il y a une urgence à continuer cette éducation affective et sexuelle et surtout à sensibiliser les parents.
Cécile Tavernier, je vous vois hocher de la tête, ça commence de plus en plus tôt en plus.
Ah ben les chiffres des rapports, oui, ne cessent de... je dirais, il y a... Il y a 4-5 ans, on disait, voilà, il faut en parler dès le collège, mmh. voilà. Mais maintenant, effectivement, en primaire, on sait qu'il y a des enfants qui sont confrontés à ces images-là. Donc oui, c'est de plus en plus tôt parce que c'est de plus en plus présent. Et voilà, oui.
Je me suis aperçu qu'avec les applications qui filtrent, etc., mmh. on ne fait que développer les compétences informatiques des enfants. Qui, du coup,
trouve des solutions,
des contournements pour accéder. Et pour compléter le propos de Sébastien, il faut bien prendre conscience que ça devient la norme entre jeunes. Mmh. Et le monde jeune se dissocie de plus en plus du monde adulte. Autrefois, c'était les musiques qui étaient différentes. Maintenant, il y a en plus tout ce monde-là qui bouillonne, qui s'exprime entre eux. Grâce à l'immédiateté, entre autres, grâce aux outils actuels, entre autres, et puis les parents qui veulent filtrer, qui mettent des choses en place, ben malheureusement, ils développent les compétences informatiques de leur enfant.
J'ai trois éléments pour compléter le propos de François. Le premier, c'est un dernier chiffre, parce qu'il est vraiment, il marque. C'est en 5 ans, on est passé de l'âge moyen de première exposition à la pornographie, de 13 à 11 ans, en 5 ans. Donc 11 ans, c'est l'âge moyen, hein. C'est pas les plus jeunes, c'est l'âge moyen. Deuxième élément, quand je n'ai pas regardé de la pornographie, je suis nul. C'est ça en fait l'enjeu. C'est je suis nul, je suis hors du temps. Et le troisième élément, c'est que il y a vraiment... J'ai perdu le fil, pardon. Je vais le retrouver.
C'est dingue de se dire que les enfants sont vus comme nuls, comme vous disiez, parce qu'ils n'ont pas regardé la pornographie. Ça témoigne de quoi, Cécile Tavernier ?
C'est un monde... oui, non, je...
Ça fait... Ça... Il faut s'alarmer, hein, François Reichert.
Je pense à la sociologie de groupe, un peu l'expérience de Milgram où on n'ose pas sortir du lot d'une part. Redis la question parce que je pensais aussi...
Je vous disais, ça signifie quoi ? Ça nous montre quoi de la société ou des jeunes actuellement ?
J'ai retrouvé et ça me fait penser à ce que disait Cécile sur l'éducation à la relation. Au-delà de relations affectives et sexuelles, l'éducation à la relation avec un grand R où... je suis responsable de ce que je dis, je suis responsable de la façon dont je reçois les choses et je suis en lien avec les autres et on est tous liés. Même ceux avec qui je n'ai pas l'impression d'être en amitié ou autre, on partage les mêmes locaux, on a des réactions, j'attends derrière lui pour manger au réfectoire, etc. On est forcément liés aux autres et ça on l'oublie. Et je reviens à la notion de pudeur, de respect, etc. Je pense qu'on n'a plus suffisamment de temps pour éveiller les enfants à ce bien commun qu'est la personne humaine et la relation.
Je vous propose qu'on fasse une première petite pause musicale. On écoute Céline Dion, S'il suffisait d'aimer. On revient dans 3 minutes 28.
Je rêve son visage, je décline son corps. Puis je l'imagine habitant mon décor. J'aurais tant à lui dire si j'avais su parler. Comment lui faire lire au fond de mes pensées. Mais comment font ces autres à qui tout réussit. Qu'on me dise mes fautes, mes chimères aussi. Moi j'offrirai mon âme, mon cœur et tout mon temps. Mais j'ai beau tout donner, tout n'est pas suffisant. S'il suffisait qu'on s'aime, s'il suffisait d'aimer, si l'on changeait les choses un peu, rien qu'en aimant donner. S'il suffisait qu'on s'aime, s'il suffisait d'aimer, je ferais de ce monde un rêve, une éternité. J'ai du sang dans mes songes, un pétale séché. quand des larmes me rongent, que d'autres ont versé. La vie n'est pas étanche, mon île sous le vent, les portes, les centres et les cris, même en fermant. Dans un jardin d'enfants, sur un balcon des fleurs, ma vie paisible où chantant battre tous les cœurs. Quand les nuages foncent, présage des malheurs, que les armes répondent au pays de nos peurs. S'il suffisait qu'on s'aime, s'il suffisait d'aimer, si l'on changeait les choses un peu, rien qu'en aimant donner. S'il suffisait qu'on s'aime, s'il suffisait d'aimer, je ferais de ce monde un rêve, une éternité. S'il suffisait qu'on s'aime, s'il suffisait d'aimer, si l'on pouvait changer les choses et tout recommencer. S'il suffisait qu'on
Église, Timothée Rouvière.
J'ai toujours le plaisir d'être avec Cécile Tavernier, adjointe diocésaine en pastorale pour l'enseignement catholique, François Reichert, qui est directeur diocésain du Tarn-et-Garonne, et Sébastien Deveau, responsable de l'association Teenstar en Haute-Garonne, pour parler de cette question de l'éducation affective et sexuelle chez les enfants et les adolescents. Sébastien Deveau, vous aviez un dernier petit mot à dire pour clôturer la
que
première partie.
Que j'avais oublié tout à l'heure, et qui était juste la prise de conscience des parents, que s'ils ont mis tout ce qu'il faut en place pour le portable de leur enfant, il y a le portable de tous les autres, et où ils n'ont aucune maîtrise du contrôle parental qui est fait sur le portable de tous leurs copains, et ils voient les portables des copains à la récré. Voilà.
Tout à l'heure, on parlait de cette importance de la prévention contre la pornographie, la sexualité dès le plus jeune âge. C'est quand même dommage de se dire qu'on passe d'abord par la prévention avant la découverte et l'émerveillement. Cécile Tavernier.
Alors c'est vrai que nos propos nous ont emmenés sur ce terrain-là. Maintenant, nous en enseignement catholique, on essaye vraiment de distinguer justement ce qui est de l'ordre de l'éducation affective, relationnelle et sexuelle, voilà, qui va permettre de découvrir la beauté de chacun, la beauté de la relation, la beauté de l'amour aussi, et d'avoir donc des interventions dans ce sens-là, effectivement, et de faire en sorte que ça, ce soit différent des temps pour la prévention. Il faut un temps pour tout, et de garder ces temps d'émerveillement, de découverte, parce que voilà, l'amour, c'est d'abord quelque chose, une chose à laquelle on aspire et dont on a besoin, et on est fait pour l'amour, donc ça, faut pas l'oublier. Et l'enjeu des interventions, c'est de découvrir cette beauté-là qu'on a chacun en nous.
Sébastien Deveau, la théorie de l'émerveillement à Teenstar, c'est quelque chose qui vous tient très à cœur?
Oui, ça nous tient très à cœur. C'est vraiment, on n'est pas dans la prévention, ou en tout cas de manière indirecte, par conséquence, parce que le parcours Teenstar, en fait, c'est un parcours éducatif qui est sous l'angle de l'émerveillement de l'affectivité, de la sexualité. C'est vraiment, l'idée, c'est de découvrir à quel point il y a de la beauté dans tout ça, et justement, pourquoi est-ce que ça doit être respecté, pourquoi c'est essentiel de le respecter, voilà, au travers de plein d'ateliers. Pour rebondir sur ce qui a été dit un tout petit peu avant la pause, résister à la pression du groupe sur ces sujets-là, et voilà, et comment justement se respecter soi-même malgré ce que dit le groupe et malgré ce que parfois le groupe veut me faire faire.
François Reichert, d'un point de vue concret au sein de l'enseignement catholique, qu'est-ce qui est mis en place auprès des enfants ?
Alors, j'en parlais tout à l'heure, il y a d'une part, enfin Cécile en a parlé, l'axe de l'éducation à la relation, qui est ce qui pose les fondations de l'éducation affective, relationnelle et sexuelle. Et dans certains diocèses, vous avez des personnes qui interviennent, qui sont employées par le diocèse et qui interviennent au sein des établissements pour travailler à l'affectivité aussi. L'éducation affective, relationnelle et sexuelle, il y a le A. Et le A est aussi fondateur. Et donc, dans une vidéo qui avait été faite par une intervenante d'un diocèse du Nord, elle expliquait aux enfants que certains aimaient se faire, quand un adulte leur papouille la tête, par exemple, d'autres n'aiment pas du tout et n'osaient pas le dire de peur de ne pas faire plaisir aux adultes. Et en fait, l'enfant est une personne à part entière, adulte en devenir, mais une personne dans son intégrité, et ça se respecte. Et donc, déjà, éveiller les enfants à exprimer leurs émotions pour être en relation vraie et de la bonne façon, respectueuse envers l'autre, c'est déjà une bonne base. Et c'est ce qu'on essaie de faire dans la majorité de nos établissements.
Et effectivement, c'est là aussi, ça rejoint en fait ce qu'on cherche à faire au travers des parcours TeenStar, qui sont en quelques phrases. Renforcer le jeune dans la compréhension et l'estime de soi. Amener les jeunes à ne plus être victimes de leurs pulsions, mais à les contrôler. En fait, qu'est-ce qui va me rendre heureux? Qu'est-ce qui va me permettre de mieux aimer les autres en me respectant et en respectant les autres? Et c'est ça tous les enjeux et tout ce sur quoi on travaille au travers des parcours TeenStar. Et enfin, c'est vivre l'affectivité et la sexualité, pour rebondir sur un propos précédent de François, comme un don. Et ça, c'est vraiment clé, c'est de leur faire prendre conscience que la sexualité, c'est d'abord un don à un autre et pas quelque chose qui est centré sur soi.
Ce qui nous guide, c'est le Christ. Le Christ a été incarné, il a eu une vie d'homme. Et nos enfants doivent être aussi incarnés et assumer leur corps et être en bonne relation déjà avec eux-mêmes pour être en relation avec autrui.
Cette promotion aussi de l'émerveillement, donc on a parlé de personnes qui intervenaient, qui étaient formées, que ce soit des personnels des directions diocésaines ou que ce soit des associations. Mais il y a aussi les enseignants qui sont au quotidien avec les enfants. Et on leur propose aussi à eux des formations. Et notamment, il y a une formation qui est au catalogue de l'ISFEC, l'Institut de formation de nos enseignants, qui est la formation à l'éducation affective par l'art, en fait, par la beauté de l'art. Donc voilà, et puis après, il y a des formations aussi à l'estime de soi. Donc tout ça, et encore un ensemble de propositions qui font qu'au quotidien aussi, ce message de l'émerveillement peut être porté. Parce que oui, il est en premier là, dans cet émerveillement de l'amour et du don, etc. Mais au fond, l'émerveillement, il commence à tout instant, de s'émerveiller de ce que je suis, de ce que les autres sont, de ce monde qui nous est donné, et d'avoir un regard positif sur la vie, parce que dans l'amour, il est bien question de vie aussi.
La relation, en fait, certains établissements, on a mis en place un label sur l'éducation à la relation, et un des, dans une petite vidéo qui présente le projet, il est écrit « La relation, ça s'apprend, et c'est pour la vie. » Et c'est même la vie, finalement. Sans relation, on ne vit pas. Et en fait, la relation, on l'oublie que ça s'apprend. Donc, on peut laisser les gens apprendre par eux-mêmes, avec difficulté et maladresse, ou on peut accompagner l'apprentissage de la relation.
Oui, je voulais juste rebondir sur le propos précédent, l'émerveillement et le fait de commencer vraiment tôt. Vous parliez, avant la pause, vous aviez posé la question, la formation des parents. J'ai envie de dire, et il y a des conférences sur le sujet qui sont très bonnes, qu'on peut trouver sur le web, j'allais dire, en fait, ça commence dès le plus jeune âge. En fait, les parents se disent, c'est à l'adolescence qu'on va commencer à aborder ces sujets-là. En fait, c'est une profonde erreur. En fait, ça commence dès 2 ans, dès 3 ans. la moindre occasion est donnée à travers le bain de l'enfant, à travers de lui faire prendre conscience de son corps, de la beauté de son corps, à quel point il faut le respecter, à quel point il est fragile. Voilà, donc ça commence vraiment par là. Et après, en fait, ça va se continuer. Et souvent, les parents nous disent mais on ne sait pas comment en parler à nos enfants à l'adolescence. Et en fait, ce n'est pas étonnant. C'est parce que le fil de communication sur ce sujet-là, qui est un sujet délicat, surtout à l'adolescence, au moment où toutes les pulsions arrivent, au moment où y a une explosion hormonale et le corps change. Donc là, ça devient délicat quand on n'en a jamais parlé avant. Et si petit... avec des mots simples, avec des mots adaptés à chaque âge, avec des approches et des angles adaptés à chaque âge, bien évidemment. Mais vraiment, la clé pour les parents, c'est de le mettre en œuvre dès le début et d'amener l'enfant à s'émerveiller du corps de l'autre. En fait, souvent, je dis, les parents sont très sensibles à la violence. C'est-à-dire, ils comprennent très vite, on tape pas un petit copain. Et donc, les enfants sont repris. Mais en fait, c'est la même chose pour la sexualité, l'affectivité. En fait, c'est une éducation à son corps se respecte, que ce soit dans la violence par des coups, mais que ce soit dans la violence sexuelle du fait qu'il y a des choses qu'on n'est pas mûr, qu'on n'est pas prêt à faire avant un certain âge parce qu'on n'a pas la maturité psychologique, intellectuelle, affective pour le vivre et qu'en plus il y a certaines choses dont on n'est pas prêt à assumer les conséquences. Et ça, c'est des choses sur lesquelles on travaille à Teenstar, mais voilà. Enfin, moi, je vraiment, j'incite les parents à établir un canal de communication le plus tôt possible.
Si on se met de l'autre côté, du côté des enfants, est-ce que le fait de suivre ces ateliers, ça leur permet de changer leur regard sur la sexualité ?
Les retours quand les jeunes on va dire, oui, quand ils s'expriment, peut-être à partir les interventions, on va dire, vraiment sur l'éducation affective, à partir du CM, et puis après au collège, et qu'on leur demande, ils se découvrent et ils sont heureux de se découvrir. Ils expriment vraiment une joie d'avoir finalement retrouvé ce qu'ils portent au fond d'eux, cette soif d'amour dont je parlais, cette unicité de chacun, de se connaître un petit peu mieux, de comprendre que les questions qui se posent, les difficultés qu'ils peuvent avoir aussi parfois, elles sont normales, mais et que ce sont aussi des chemins qui vont leur permettre, qui leur donnent d'être tout ce qu'ils sont et qui vont leur permettre aussi en mieux se connaissant, de mieux connaître les autres et de mieux construire. Enfin, voilà. Et souvent, les retours après ces séances où on leur permet d'aller dans ce champ de l'affectivité, de la connaissance de soi et de réfléchir à ce qu'est l'amour vrai et beau en vue de la sexualité, ils sont heureux parce que c'est un petit instant de profondeur et qui les marque. Ils en témoignent effectivement.
Pour compléter sur la réceptivité des jeunes, c'est extrêmement frappant. Les parcours Teenstar sont faits d'une certaine manière où les deux premières séances sont obligatoires. Entre guillemets, les parents forcent leurs enfants à y aller. Et puis, le parcours qui est entre 12 et 15 séances, à partir de la troisième séance, c'est le jeune et le jeune seul qui s'engage. Et on insiste beaucoup auprès des parents. Il ne faut pas qu'il y ait de chantage affectif sur le sujet. Et ce qui est assez étonnant, c'est que la première question qu'on pose lors de la première séance, c'est « Qu'est-ce que vous faites ici ? Pourquoi vous êtes là ?» Et 9 sur 10 nous répondent « Je ne sais pas pourquoi je suis là, mes parents m'ont forcé. » Et en 7 ans de parcours, je n'ai pas un jeune qui a arrêté et qui ne s'est pas engagé pour la totalité du parcours. Donc ils sont extrêmement réceptifs. Et pour compléter, j'ai eu une fois un jeune qui a été un peu forcé par les parents, donc on le voit tout de suite parce qu'il n'y a pas de réceptivité, ça ne marche pas. Et donc je peux vous dire que c'est assez étonnant comme en 2 séances, on leur fait prendre conscience de l'importance et comment en découvrant la merveille de ce qu'ils sont et de la relation, en fait, ils ont envie d'en savoir plus. Ils ont vraiment une soif d'en connaître un peu plus et d'entendre un autre discours. Voilà. Donc ça, c'est ce dont je peux témoigner des parcours Teenstar sur la réceptivité.
Je pense qu'il ne faut pas... moi, je rebondis vraiment sur cette soif-là. Les jeunes ont besoin qu'on leur parle de la beauté de ce projet pour eux. Parce que, encore une fois, ils le portent au fond d'eux. Ils sont faits pour ça. Et voilà, ils, au fond, même s'ils sont dans ce monde-là, ils voient bien que ça ne les satisfait pas. Et ils ont vraiment besoin de ça. Il faut y aller.
La difficulté de les accompagner, et c'est ça qui est en même temps merveilleux en éducation, c'est que très souvent, lorsqu'ils posent des questions, surtout les plus petits, ce n'est pas forcément pour attendre une réponse, c'est pour montrer ce qui les préoccupe. Et notre réaction à ce moment-là conditionnera toute la suite. Et on voit des enfants qui, en grandissant, s'ouvrent de plus en plus librement à leurs préoccupations, à leurs parents, parce qu'au début, comme c'était difficile, ils le formulaient sous forme de questions. Et le parent essayait de faire formuler la réponse par l'enfant lui-même. Et lorsque l'enfant n'arrivait pas à répondre, eh ben, tu arriveras à répondre plus tard, etc. C'est aussi un peu le cheminement qu'on essaie de faire dans les établissements. Parce que, comme on l'a dit, le parent est le premier éducateur et on accompagne cette éducation-là. Et il faut la valoriser. Et l'enfant se forge au fur et à mesure de ses expériences. À nous de faire en sorte qu'il puisse vivre les meilleures expériences possibles. Mais ce que je trouve merveilleux, ce sont ces étapes-là et puis le questionnement qui devient propos au fil de l'âge.
Il y a aussi la question du consentement. Est-ce que c'est quelque chose que vous abordez à Teenstar ?
Oui. Alors en fait, on ne l'aborde pas directement sous l'angle du consentement. On l'aborde sous l'angle de qu'est-ce que moi je veux ? Et non pas attendre à se préparer à ce qui va se passer, mais qu'est-ce que moi je veux profondément pour ma vie ? Comment je veux inscrire ma vie affective et sexuelle dans mon projet de vie. Et encore une fois, les enfants sont très réceptifs à ça, les jeunes sont très réceptifs à ce changement d'angle. C'est pas est-ce que je vais consentir à ce qu'on va ou pas vouloir m'imposer, mais c'est qu'est-ce que moi je veux profondément. Quelles sont mes valeurs. Et en fait, on les fait réfléchir sur leurs propres valeurs. En fait, pour expliquer, le Teenstar, en fait, c'est une pédagogie réflexive qui est parfaitement en ligne avec ce que vient de dire François. C'est vraiment, il est extrêmement rare qu'on réponde à leurs questions. En fait, on le répond à leurs questions par d'autres questions pour les amener à réfléchir et pour les guider pour qu'ils trouvent leurs propres réponses, mais vraiment au fond d'eux-mêmes, dans la profondeur de la réflexion, pas en restant sur la superficialité. Et si on leur apporte une réponse toute faite, d'abord, ça ne va peut-être pas leur parler directement, donc ça ne va pas s'ancrer profondément en eux, alors que si c'est eux qui apportent leur réponse, c'est vraiment beaucoup plus durable. C'est vraiment... ça va être une réponse qui va être apportée, mais ça va être la leur. Et ce n'est pas une qu'ils vont essayer de s'approprier. Et voilà, donc... C'est vraiment, sur le consentement, c'est plus qu'est-ce que moi je veux, qu'est-ce que je voudrais et pourquoi.
Cécile Tavernier, un avis sur ce qui vient d'être dit par Sébastien Deveau ?
Mais j'adhère complètement. Après, il y a des effectivement, il pourrait y avoir une approche très légaliste de la question du consentement. Mais il est évident que, enfin voilà, ce qu'on encourage, c'est dans en tant que direction diocésaine, hein, alors après on n'est pas dans chaque classe et dans chaque derrière toutes les personnes qui interviennent, mais en tout cas le message qu'on porte est exactement celui-ci, c'est-à-dire effectivement qu'est-ce que je veux et comment je me donne les moyens d'y parvenir en prenant conscience aussi peut-être de mes fragilités. Voilà, on parlait tout à l'heure de l'effet de groupe, de toutes ces choses-là qui peuvent influer et me fragiliser, mais au fond malgré tout, revenir à qu'est-ce que je veux, moi, vraiment. Et c'est vrai que c'est une clé sur laquelle, enfin, voilà, avec laquelle je suis totalement en phase.
Et pour clôturer sur la question du consentement, parce qu'effectivement, on a dit qu'est-ce que je veux, mais à la fin, qu'est-ce qui se passe quand on veut me forcer à faire ce que je ne veux pas ? Là, effectivement, Teenstar apporte aussi, au travers d'ateliers, comment je dis non et comment je refuse et je rejette fermement, catégoriquement, pas dans la violence, mais vraiment dans la fermeté, je rejette qu'on m'impose quelque chose que je ne veux pas. Et ça, effectivement, donc, voilà, ça répond à la question du consentement. On a des ateliers là-dessus sur savoir dire non, apprendre à savoir dire non, comment dire non, et résister à la pression du groupe. On a un atelier entier dessus, tellement c'est prégnant, surtout à l'adolescence, où il y a un effet de groupe, une appartenance à un groupe, qui est importante.
C'est surtout que dire non, c'est s'autoriser à dire oui à tout le reste éventuellement. Et ça, on l'oublie.
Mais ce type d'atelier a tout à fait sa place en enseignement catholique. Enfin, voilà, il est mis en place dans certains établissements. Certaines personnes ont aussi été formées Teen Star. Voilà, donc il y a un travail aussi en partenariat qui avait été initié il y a, je sais pas, une dizaine d'années maintenant. Donc voilà, tout ça est complètement perméable et y a des échanges de bonnes pratiques qui se font et on s'enrichit de toutes ces pédagogies, effectivement.
Vous voyez, il nous reste 2 minutes avant la fin de l'émission, c'est passé très rapidement. J'aimerais vous entendre, chacun à votre tour, un petit mot de conclusion. Qu'est-ce qu'on peut espérer pour la suite? Est-ce que vous avez un mot pour les parents qui écoutent cette émission éventuellement?
Alors, oui, le premier, et c'est, je reprends un petit peu ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est établissez un canal de communication. Si vous ne savez pas comment en parler, il y a des conférences qui existent sur le sujet. Mais c'est vraiment, vous êtes les premiers éducateurs. Et oui, il y a plein de propositions pour les jeunes, elles sont très belles et très bonnes, mais vraiment, vous êtes les premiers éducateurs et vos enfants ont soif d'entendre des paroles différentes et des angles différents de ce qu'ils entendent tous les jours et de ce qu'ils voient tous les jours.
La récolte ne se fait pas le jour même. Semer, et un jour ça germera et l'enfant récoltera les fruits de sa vie, de ses expériences, accompagné par vos soins. Et il faut rester patient et beaucoup d'espérance, mais ça marche.
Et je dirais, c'est vrai que c'est pas facile d'aborder ces questions-là avec ses enfants, mais il faut oser. Il faut oser avec beaucoup de délicatesse et être présent, c'est vraiment une preuve d'amour, une preuve qu'on les aime. Et il faut oser aller aborder ces questions-là. Et en ayant conscience que sinon c'est la société qui risque de les éduquer, voilà, donc nous on a notre parole et notre devoir est là, voilà, donc courage, mais vous ne serez pas déçus.
Et ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup sincèrement à tous les trois d'avoir accepté mon invitation et d'être venus nous parler de cette éducation affective et sexuelle chez les enfants et les adolescents. Tout de suite on retrouve l'agenda de l'Église dans votre région.
Église Actualité, Timothée Rouvière.
Bonjour à tous, débutons cette Église Actualité avec l'association des Amis de l'Église Saint-Cernin de Domazan qui présente La Passion selon Tibérine, une pièce de Pascal Joumier et la troupe L'Écho du Soleil. Le spectacle, cette représentation a lieu samedi à 18h30, renseignements au 06 74 40 29 36, 06 74 40 29 36 ou sinon vous pouvez vous rendre sur saintcernindomazan@gmail.com, saintcernindomazan@gmail.com. Partons du côté de Tarbes désormais où la paroisse Saint-Antoine propose samedi une école de vie dans l'Esprit Saint pour les adultes avec les frères franciscains. L'école de vie débute à 9h et se termine à 17h au 2 boulevard Pierre Renaudet à Tarbes. Renseignements au 05 62 36 56 32, 05 62 36 56 32. Le diocèse de Toulouse, de son côté, propose de participer à la journée de la rentrée de l'ACI. La journée débute samedi à 9h30 et se termine à 13h. Elle a lieu au village Filoté, 28 rue de l'Aude. Et pour conclure cette église actualité, le diocèse de Montauban organise un pèlerinage Notre-Dame de Montlijon, Mont-Saint-Michel. Notre-Dame de Montlijon, Mont-Saint-Michel. Il débute le 3 octobre, c'est lundi, et se termine le 8. Information au 06 45 75 14 59. 06 45 75 14 59. Ou sinon, vous pouvez vous rendre sur le site internet du diocèse de Montauban, diocèse-montauban.fr. diocèse-montauban.fr. C'est la fin de cette église actualité. Rendez-vous à lundi pour un nouvel agenda de l'église dans votre région.
Retrouvez Église Actualité sur le web en tapant www.radioprésence.com.
C'est la fin de cette émission Vivante Église. Merci beaucoup de nous avoir suivis et d'être fidèles à notre antenne. Je remercie encore une fois mes invités, Sébastien Deveau, Cécile Tavernier et François Reichert, d'avoir accepté mon invitation. Rendez-vous lundi pour une nouvelle émission. Nous parlerons des suites des 900 ans de la cathédrale de Cahors avec le vicaire général, le père Luc Dangean. Si vous voulez réécouter cette émission, elle est disponible dès à présent en podcast sur notre site internet www.radioprésence.com ou en rediffusion ce soir à 21h. Passez une très belle journée à l'écoute de notre antenne.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.